Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Carnet de Région, le magazine hebdomadaire et collaboratif préparé et proposé par les radios associatives du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, la rédaction en chef est assurée par Radio Barthas à Florac. Au sommaire de cette édition, Radio Barthas vous propose un sujet sur la Mostra de Mende, 4e édition du lèche-vitrine d'art contemporain de la ville de Mende. Puis nous irons à Montpellier avec RCF Hérault, qui à l'occasion de la semaine de la presse, a rencontré une classe de 5e du collège Joffre pour savoir quel regard portaient les collégiens sur le monde de la presse. Le 20 mars dernier, toujours à Montpellier, le lycée Georges Fraîche accueillait la journée internationale de la francophonie. Radio Aviva était sur place. Nous irons ensuite à Béziers avec Radio Pays d'Hérault pour vous présenter un festival atypique qui mêle rencontres culturelles et projets d'achat d'immeubles associatifs. Et nous terminerons cette édition avec RCF Pays d'Aude au sujet de la menace de fermeture des maisons départementales des personnes handicapées.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Du 28 mars au 19 avril prochain, la ville de Mende en Lozère se transforme en véritable musée à ciel ouvert. Plus d'une vingtaine d'artistes contemporains vont exposer leur œuvre dans les vitrines vacantes de la ville. C'est la Mostra de Mende, 4e édition du lèche-vitrine d'art contemporain. Un événement qui tente de délocaliser l'art des musées afin de revitaliser un cœur de ville. Laurent Joyeux, un des organisateurs de la Mostra, nous présente cet événement.
À la Mostra de Mende, c'est une manifestation pour laquelle nous investissons les vitrines vacantes et les vitrines des commerçants du centre-ville de Mende. Vitrines que nous investissons en y présentant des œuvres d'art contemporain, plutôt orientées sur la jeune création, des œuvres d'art des étudiants des Beaux-Arts, comme ce sera le cas cette année, du Fonds Régional d'Art Contemporain, comme c'était le cas les années précédentes, ou tout simplement d'artistes invités. Ben, en fait, à l'origine de ce projet, il y a Dominique Brun, et qui se désolait du nombre de vitrines qui se fermaient dans ce centre-ville, qui, comme beaucoup de centres-villes, tend à une certaine dévitalisation, au profit soit des zones artisanales, soit des zones industrielles, et qui, comme beaucoup de centres-villes en milieu rural, voit les vitrines se fermer les unes après les autres et les magasins se fermer les uns après les autres, bien que sur ce plan, Mende résiste plutôt très bien. Il y a deux axes dans ce travail, il y a forcément celle de la redynamisation de ce centre-ville, mais aussi celle de créer un musée à ciel ouvert, d'investir l'espace public d'œuvres d'art contemporaines qui sont aujourd'hui, que ce soit en Lozère et même ailleurs, pas forcément présentées si facilement dans leur quotidien à des habitants, aux passants, aux Mendois. Donc pour cette 4e édition, nous avons choisi une thématique qui nous semblait pertinente dans la mesure où nous avons pu observer qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes artistes réinvestissent des savoir-faire, que l'on dirait plutôt artisanaux, que ce soit le travail de la céramique, du bois, du verre. Et de fait, nous avons intitulé cette manifestation « Entrée en matière » en nous focalisant sur ce travail sur un certain nombre de matières, que ce soit le papier, le tissu, le verre, la pierre, les cheveux, là, avec les étudiants, je vois, qui vont réaliser une œuvre, le son aussi, la matière sonore. Voilà, donc c'est un peu ce projet. En fait, nous allons investir plus de 40 vitrines. Il y aura 10 étudiantes des Beaux-Arts de Nîmes, 8 artistes, dont 2 artistes sonores. Il y a 2 plans sur lesquels nous essayons de faire le au mieux avec les moyens qui nous sont loués. C'est la communication et la signalétique, au-delà de la question de la programmation artistique pure. Donc en termes de communication, nous avons réalisé un site web avec les étudiants de l'Université de Mende, mostrademende.fr. Nous avons aussi un site un Facebook, évidemment. Et nous réalisons un petit journal que nous imprimons à l'office de tourisme et que nous diffusons pour que chacun puisse avoir une petite présentation plus avancée de la Mostra et un parcours. Le départ, c'est l'office de tourisme. Et ensuite, nous cheminons dans les rues de Mende en suivant le parcours de découverte du patrimoine aussi mendois.
La semaine de la presse se tient actuellement du 23 au 28 mars prochain à Montpellier. Le collège Joffre s'empare du sujet. Quel regard portent les collégiens sur le monde de la presse ? Un reportage signé Chloé Malinowski pour RCF Maguelon Hérault.
Les qualificatifs sont nombreux pour représenter la presse. Ces élèves de 5e du collège Joffre ont des idées bien déterminées sur le sujet.
Ça sert à montrer tous les malheurs qu'il y a dans le monde, ça informe.
Les informations, ça peut m'expliquer la vie qui se passe parce que je peux pas tout savoir.
Ça nous permet de nous informer sur l'actualité d'aujourd'hui pour nous intéresser à ce qui se passe autour de nous.
C'est une façon de nous informer. C'est utile pour avoir des renseignements sur tout.
Il y en a certains qui n'ont pas internet ou la télé, donc ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Donc, grâce à la presse, ils peuvent lire dans les journaux ce qui se passe dans le reste du monde.
C'est un moyen d'informer, ça peut sensibiliser les gens, les choquer.
C'est quelque chose de très important, étant donné que ça nous permet d'avoir l'information. Du coup, je trouve que c'est très important et ça représente pas mal de choses.
De son côté, Daniel Fica, professeur documentaliste au Collège Joffre, anime l'atelier presse auprès des collégiens. Elle aussi a un avis bien tranché.
Bon, c'est un moyen d'information extraordinaire, mais un moyen d'information dont il faut aussi se méfier, parce qu'on n'a pas forcément l'information que l'on a envie de trouver dans tous les organes de presse. Donc, en fait, il faut aller chercher l'information et c'est pas celle qui nous tombe sous la main qui est forcément la plus intéressante. Des fois, il faut creuser un petit peu plus loin. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire passer à mes élèves.
La semaine de la presse se tiendra jusqu'au 28 mars dans les collèges et lycées de Montpellier. 210 000 établissements et plus de 3 millions d'élèves participent à l'événement en France.
Le 20 mars dernier avait lieu la journée internationale de la francophonie. À cette occasion, le lycée Georges Fraîche de Montpellier accueillait un grand colloque sur le sujet. Au programme de ce colloque, des interventions sur la francophonie culturelle, mais aussi sur le concept plus jeune de francophonie économique. Arnaud Galli était l'un des invités de cette journée. Il est rédacteur en chef de la revue L'Année francophone internationale. Au micro de Gilles Geoffrey de Radio Aviva, il commence par un point sur l'état de la francophonie dans le monde.
C'est pas les Français qui en sont à la base, même si paradoxalement c'est la langue française qui est le moteur de tout ça, mais les principaux acteurs, ce sont les Québécois, ce sont les Vietnamiens, ce sont les Belges, des gens qui sont confrontés soit à des vrais problèmes linguistiques, comme les Wallons et les Flamands, où la langue française, c'est en même temps une lutte identitaire réelle, ou alors des gens qui viennent de pays dont la langue natale n'est pas le français, mais pour qui le français permet un échange facilité avec le reste du monde. Et on parle sans arrêt de mondialisation et la francophonie doit s'inscrire là-dedans. Et je rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, aujourd'hui c'est 80 pays. Alors dans les 80 pays, il y a évidemment, là je parle de la francophonie institutionnelle, dans ces 80 pays, il y a des pays qui paraissent surprenants. Tout à l'heure je citais le Kosovo. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire le Kosovo, pays francophone ? Ah bon ? Alors ça ne veut pas dire que dans la rue, vous allez pouvoir arrêter n'importe qui et qu'il va parler le français. Ça veut dire que le système éducatif universitaire et scientifique, par exemple, est porté par des francophones. Et que donc il y a, dans la diplomatie, dans la recherche, dans les universités, il y a un courant de personnes francophones et qui sont donc des relais pour les autres pays. Évidemment, on ne peut pas comparer le Kosovo et le Québec, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, on a fait rentrer, pas personnellement, mais un pays comme le Mexique cette année est entré comme pays observateur, pas de plein droit, mais observateur, parce que toutes les universités, allez sur le site par exemple, là je m'adresse à vos auditeurs avec plaisir, faites le test, allez sur le site des alliances françaises, et regardez Mexique, combien d'alliances françaises sont au Mexique, et vous faites ça aussi pour la Chine. Alors la Chine n'appartient pas à l'OIF, bien sûr, mais faites sur les grands pays, regardez l'explosion des alliances françaises, et en regardant ça, c'est difficile de se dire que la langue française est en perte de vitesse.
La langue française ne serait donc pas en perte de vitesse dans le monde. Il est bon de le savoir, mais pourquoi finalement est-ce une bonne chose ? Arnaud Galli rappelle quelques principes de la francophonie.
Souvent pour un Français non initié, la francophonie, c'est défendre les idées de la France. Et moi, enfin moi, nous, ce que nous nous représentons, mais c'est quasiment l'inverse. Enfin, c'est au contraire. Utilisons cette langue. On a la chance, nous, d'être nés en France et de la pratiquer. Donc tant mieux, on a ce bénéfice. Mais c'est pas pour la promotion de la France en tant que telle. Ça, c'est la francophonie économique. C'est l'inverse. C'est justement de se dire, moi, je serais ravi de savoir qu'un, je prenais l'exemple d'un Vietnamien et d'un Malien, arrive à monter une boîte, une start-up ou un atelier textile ou je ne sais pas quoi, qui fonctionne par l'intermédiaire de la langue, avec des gens, avec un Ivoirien, un Québécois et des Vietnamiens et des Maliens, tout ça dans la même entreprise, et que cela fasse vivre des familles, si tous ces gens-là se parlent en langue française, alors je vais le dire un peu trivialement, moi j'ai gagné. Enfin, c'est ça l'idée et l'idéal. C'est pas de dire je défends ma langue, protection. Moi j'ai rien contre les anglophones. Hein. Enfin, franchement, c'est pas ça la question. Hein.
Nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne seront jamais maîtres du printemps. Cette citation de Pablo Neruda a donné le nom de ce festival des peuples appelé un printemps à Béziers, et qui débute ce week-end. Co-organisé par la CIMAD, association d'entraide et de solidarité pour les migrants, Daniel Martin de la CIMAD à Béziers nous donne sa vision du but de ce festival qui va durer 15 jours.
Alors le but concernant le festival des peuples à CIMAD, c'est prouver que se rencontrer et vivre ensemble, ça se théorise pas, ça s'expérimente. Et voilà, et nous on a envie de le montrer au quotidien en ouvrant un espace de rencontre et en faisant en sorte que les gens se rencontrent à travers des choses toutes simples, toutes concrètes. La bouffe, la danse, la musique, les enfants, des choses un petit peu élémentaires et humaines, sans parler de migrants, pas migrants, droite, gauche, tout ça, on s'en fout, c'est juste comment on fait pour se rencontrer. Et à partir de ces rencontres-là, on espère qu'il va se créer des solidarités et des choses qui peuvent permettre de faire de vivre ensemble.
La plupart des événements de ce festival se dérouleront dans les locaux de la CIMAD en centre-ville de Béziers, un festival co-organisé avec l'équipe d'un projet d'acquisition d'immeubles associatifs. On écoute Eric Lucas au micro de Radio Pays d'Hérault.
Du côté de l'immeuble associatif, puisqu'on s'associe à la CIMAD sur ce projet, je pense qu'on est entièrement d'accord avec la façon de voir de la CIMAD, mais on a en plus une idée derrière la tête, hein, finalement, c'est celle d'avancer vers ce projet d'immeuble associatif, c'est-à-dire d'aller vers cette maison qui abriterait des associations et qui proposerait aussi un accueil public le plus régulièrement possible.
Le festival Un printemps à Béziers, ce sont des rencontres, des débats, des concerts, du théâtre, des films et des repas à vivre jusqu'au 11 avril. Davantage de renseignements sur le programme, pianotez sur votre ordinateur, immeuble associatif Béziers. C'était un sujet d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault. L'Association des paralysés de France, en cette période électorale, souhaite mettre l'accent sur l'avenir incertain des maisons départementales des personnes handicapées. Et pour cela, elle lance une campagne « Touche pas à ma MDPH », des propos recueillis par RCF Pays d'Aude.
Notre association, nationalement, a lancé une campagne qui s'appelle « Touche pas à ma MDPH », avec une pétition en ligne d'ailleurs. Et par la suite, on va interpeller le président de la République et le Premier ministre en lui demandant de renforcer les MDPH qui sont indispensables pour les personnes en situation de handicap. Mais la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. C'est un guichet unique pour les personnes en situation de handicap. Et c'est la loi de février 2005 qui a créé ces MDPH pour que les personnes handicapées n'aient qu'un seul lieu pour se renseigner pour tout ce qui est aide matérielle, humaine. Et là, la campagne est lancée parce que les MDPH sont en danger.
C'est-à-dire concrètement, il y a des coupes budgétaires de prévues ?
Mais non, concrètement, il y a un projet de loi sur l'adaptation du vieillissement de la société. Alors, ce que l'on craint, c'est que les MDPH deviennent appelés vulgairement, puisque c'est que des sigles maintenant, MDA, c'est-à-dire maison départementale de l'autonomie. Mais justement, c'est pour cette raison que l'association lance une campagne pour le, en disant ne touche pas à MDPH, parce que la MDPH est un guichet très très important pour les personnes en situation de handicap.
Voilà un sujet sensible et à suivre, et des propos recueillis par Jérôme Bozon pour Radio Pays d'Aude. Voilà, c'est la fin de ce carnet de région. Merci de l'avoir suivi et merci à toutes les radios associatives qui ont collaboré à sa création. À la semaine prochaine.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.